Les matins de France Culture.
Retrouvons notre invitée Geneviève Fraisse, philosophe, qui a notamment publié Du consentement aux éditions du Seuil. Nous accueillons Annette Lévy-Villard. Bonjour, vous êtes journaliste. Et si je vous ai proposé de venir ce matin, c'est parce que vous avez notamment suivi l'industrie cinématographique à Hollywood. Vous avez écrit Chronique de Los Angeles chez Grasset. Et également, vous avez publié un ouvrage sur ce que vous avez intitulé Chronique de la guerre du sexe en Amérique. Et c'était en 2006. Le fait que cette affaire Weinstein ait éclaté dans les milieux du cinéma, c'est-à-dire que finalement, ce que Geneviève Fraisse a décrit comme étant un bouleversement, soit intervenu dans un milieu très spécifique, avec des gens plutôt aisés qui avaient à la fois accès aux médias. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Est-ce que ça a suscité de la surprise? Est-ce que c'était quelque chose auquel on s'attendait, Annette Lévy-Villard?
Alors, c'est la question du pouvoir qui se pose. C'est-à-dire que vous avez le symbole de pouvoir absolu à Hollywood qui est Harvey Weinstein, qui était l'homme le plus puissant de Hollywood, qui était celui qui, en fait, tirait toutes les ficelles de ce qui pouvait se faire à Hollywood pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années. Tout le monde savait...
C'était vraiment l'homme le plus puissant.
Oui. Il a, je sais pas combien d'Oscars. Toutes les stars avaient envie de tourner avec lui. On savait que c'était un mec prédateur, je ne sais pas, mais en tout cas harceleur. En tout cas, la blague étant, qui était la même blague à propos de Strauss-Kahn, je dois rappeler, on ne prend pas l'ascenseur avec Dominique Strauss-Kahn, on ne prend pas l'ascenseur avec Harvey Weinstein, nous autres journalistes. Donc c'était blague récurrente, on savait que ce type-là était un peu malade, mais on ne savait pas jusqu'à quel point. Alors il faut voir que Hollywood, ce que je raconte d'ailleurs dans le livre que vous venez de citer, Chronique de la guerre du sexe en Amérique, Hollywood sert un peu d'avant-garde. Chez nous, c'est les intellectuels qui prennent position. En Amérique, ce sont les stars hollywoodiennes qui servent d'avant-garde sur la question, par exemple, de la guerre du Vietnam, sur la question des campagnes politiques. Les acteurs et actrices sont ceux qui prennent la parole, qui s'engagent, alors que chez nous, c'est un débat d'intellectuels, d'écrivains. Donc, Hollywood a toujours joué ce rôle-là. Donc ça, c'est pour ça que c'est une caisse de résonance énorme. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a une centaine de femmes qui font un fonds de soutien aux femmes qui veulent porter plainte, c'est totalement dans la continuité de ce que joue Hollywood.
Geneviève Fraisse.
Oui, Time's Up, cette fameuse initiative de la semaine,
oui.
Qui est assez étonnante, c'est-à-dire qu'elle, puisqu'on parlait de la suite possible, elle passe à l'acte en proposant ce fonds d'aide. Non, ce qui est quand même saute aux yeux, c'est qu'il y a un mot qui relie à la fois le pouvoir et le sexe, c'est le mot jouissance. Donc il n'est pas du tout étonnant, pour fréquenter un peu ces histoires de sexe et de pouvoir, de voir que ça a un lien, mais qu'on soit, en haut de l'État, ici, en Europe, ou qu'on soit aux États-Unis. Il faut faire le lien. Mais quand je dis sexe, ça ne veut pas nécessairement...
C'est-à-dire,
jouissance sexuelle, ça ne veut pas dire nécessairement plaisir sexuel. Ça veut dire, c'est...
Le pouvoir. C'est pour ça que...
Et d'ailleurs, beaucoup d'analyses du viol en tant que tel, en dehors de ce qu'on est en train de dire spécifiquement ce matin, c'est que c'est moins le plaisir sexuel qui est recherché dans un viol que la prise de pouvoir sur le corps de l'autre.
Oui, absolument.
Donc, qui ne va pas nécessairement avec du plaisir. Donc là, c'est extrêmement important de ne jamais oublier que le pouvoir et le sexe ont ce mot en commun qui est jouissance.
Mais alors, ce qui étonne dans cette société américaine, malgré tout, Annette Lévy-Villard, c'est ce dualisme entre, d'une part, des scènes d'une grande sauvagerie que l'on décrit, parce que il faut expliquer aux auditeurs aussi que depuis la révélation de l'affaire Weinstein, le New York Times en particulier a révélé toute une série de choses. Je parlais en dehors des milieux cinématographiques, par exemple, cette grande enquête qui a eu lieu dans les usines Ford, qui, elle, est très éloignée donc des milieux du cinéma, où on montre à quel point dans les usines, on a affaire à un véritable harcèlement des femmes. Alors, il faudrait voir si en France, on a affaire aux mêmes choses ou pas. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a à la fois des choses très codifiées entre les hommes et les femmes aux États-Unis et des révélations qui montrent que la réalité est tout autre.
Mais il faut quand même revenir au puritanisme. Il y a cette chape de plomb du puritanisme qui fait que le sexe est tabou, on n'en parle pas, et en même temps, revenons à l'affaire de Bill Clinton. Bill Clinton qui avait cette aventure assez glauque, disons-le, avec cette jeune stagiaire Monica Lewinsky, qui a à la fois choqué et en même temps, ça va dans le sens de ce puritanisme. On ne dit pas, on ne fait pas, mais on le fait quand même. Je rappelle qu'avant Weinstein, il y a eu quand même des grandes affaires médiatiques. Il y a Bill Cosby, la star de la télé américaine, qui est poursuivi en procès pour avoir harcelé je ne sais pas combien de femmes et même violé, je pense. Il y a eu l'autre star de la chaîne d'information Fox News.
Énormément de journalistes qui sont aujourd'hui impliqués.
Ça vous fait rire.
C'est très étonnant de voir. Écoutez, je me demande effectivement quel est le lien, puisque donc là, pour le coup, le journalisme est un milieu en France que je connais bien. Et quand je vois la prévalence de ce genre d'affaires aux États-Unis, j'espère et je n'ai pas l'impression qu'en France, on en soit effectivement là. Annette Lévy-Vélenard, vous êtes une autre journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, moi, j'ai rappelé Dominique Strauss-Kahn, qui n'était pas journaliste, mais homme politique et futur candidat à la présidence, même il avait de grandes chances d'être notre président de la République. Et ça n'a pas choqué autant en France que ça n'aurait choqué aux États-Unis. Vous voyez la différence, le parallèle. Weinstein, ça fait un énorme scandale. Strauss-Kahn, ça fait effectivement des poursuites pénales, etc.
Mais ça n'a pas parlé quand même. Vous ne pouvez pas accuser la presse française de ne pas en avoir parlé.
Les rapports entre les hommes et les femmes, c'est ça que je dis. Bien sûr, c'est un énorme scandale.
Parce que c'est Geneviève Fraisse.
Parce que en fait, la différence, si on prend Strauss-Kahn, Baupin, Weinstein, c'est que chaque fois, on élargit le cercle. C'est-à-dire qu'entre une plainte, qui est une plainte encore de l'ancien temps, dans l'affaire Strauss-Kahn, c'est une domestique qui est quelle que soit par ailleurs l'identité strauss-kahnienne du côté de la prédation, mais c'est une histoire avec une victime. Après, on en a plusieurs quand c'est l'Assemblée nationale, et on arrive là à une parole publique au point que, ce qui m'étonne depuis quelques années, et ça vient notamment des stars américaines, mais qui m'étonne positivement, pour reprendre la fin de la conversation de tout à l'heure, c'est la façon dont ces femmes vont utiliser le mot féminisme, ce qui est totalement nouveau. C'est-à-dire sur l'histoire longue, hein, pas sur l'histoire courte. C'est-à-dire qu'on puisse dire « je suis féministe », alors que pour ma part, ayant travaillé aussi sur la naissance de ce mot-là à la fin du Second Empire, qui naît dans un milieu médical, puis qui va être transposé dans le milieu politique, c'est que c'est un mot extrêmement politique, ça je peux le montrer, mais il n'est pas utilisé pendant de très très longues années. Il le devient comme quelque chose presque d'officiel. Alors je rappelle juste que le néologisme du mot féministe, qui sort du langage médical, c'est pas pour dire que les féministes seraient des malades, c'est juste pour dire que les deux sexes sont peut-être semblables. Le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin. J'ai pas le temps de développer, je sens ça.
Non, vous avez tout à fait le temps de développer.
Mais c'est extrêmement important parce que ça rejoint la pensée démocratique. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est pas de dire que ces femmes qui veulent réclamer l'égalité sont des malades ou simplement elles sont frustrées, etc. Elles sont en manque, comme on m'a expliqué pendant des années. Ça veut dire que dans ce mot-là, si on passe du langage, quand c'est un jeune garçon qui est en arrêt de développement, qu'on va traiter de féministe, comme si finalement du féminin installé dans le masculin, et au fond c'est ça qu'une des questions récurrentes de la démocratie, c'est sur le semblable. Est-ce que les hommes et les femmes sont les mêmes ou est-ce qu'ils sont différents? Et le féminisme et ce mot s'installe au cœur même de cette question linguistique, si vous voulez.
Oui, il faut voir que nous qui avons participé à la révolte des nouvelles féministes dans les années 70, Geneviève et moi, ensuite une espèce de tunnel où le mot féministe était, surtout en France, complètement négatif. C'était les filles qui n'aiment pas les mecs, l'amertume, les revendications un peu sadiques. Bon, c'était très négatif. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement, comme vient de dire Geneviève, on relégitime le mot féministe. Ça devient plus ridicule de dire « je suis féministe », alors que ça l'était un petit peu récemment. Ça a remis en route cette question-là. Mais après ce tunnel, je voudrais rappeler que quand même, on a eu une révolution sexuelle dans les années 70, avec la légalisation de la contraception dans le monde occidental. Et ensuite, une révolution sexuelle qui, comme nous l'avions écrit à l'époque, Geneviève, n'était pas forcément la révolution sexuelle pour les femmes. Il y a eu un malentendu quelque part. Il y a eu effectivement la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes avaient un contrôle sur leur corps, mais en même temps, les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas arrivées vraiment là où elles devaient arriver, ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais alors, attendez, parce que dans cette polémique sur l'affaire Weinstein et sur finalement ce que l'on a appelé ensuite la culture du viol, on a dit qu'il fallait revisiter les films, et alors au début, lorsque j'ai entendu entendu ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu fort de café. J'ai fait une expérience personnelle. J'ai revu, par exemple, Touchez pas au Grisby, donc un film de 1954. Et je l'ai revu avec mes enfants. J'ai un fils de 10 ans et je me suis rendu compte qu'effectivement, les représentations étaient plus que machistes. Et ce jeune garçon de 10 ans était choqué par le film. Ce qui veut dire que, effectivement, l'espace d'un certain temps, les représentations ont quand même beaucoup évolué. Et que, effectivement, ce qui me paraissait comme quelque chose d'un peu étrange était avéré. Il y a effectivement un lien entre le cinéma et la propagation d'un certain nombre de stéréotypes.
Oui, ben, le cinéma représentait la culture de l'époque. Donc c'est vrai qu'on n'oserait pas, par exemple...
Mais à ce point-là, parce
que... regarder les films de la Nouvelle Vague, non, mais j'ai vous aurez des drôles de surprises.
À quoi pensez-vous ? Parce que dans formidable. Touchez pas au Grisby, par exemple, Gabin ne peut pas croiser une femme sans avoir un geste déplacé, comme on dit maintenant.
Oui, mais je pense que ça va devenir extrêmement intéressant de revisiter l'histoire, non pas pour de la censure, non pas pour des jugements négatifs, tout ça, mais juste pour voir comment le cinéma a peut-être pas seulement représenté, comme vous dites, des stéréotypes, mais déplacé dans un langage quelque chose qui avait lieu. Moi, c'est le déplacement qui m'intéresserait dans la production des images. Comment ça s'est fait ? Le bal des vampires, qui a été revisité aussi récemment, moi je me rappelle que c'était le film préféré de ma fille, quand elle était petite. Et moi, je n'avais aucun souci à ce qu'elle voit 10 fois par an le bal des vampires, qui est resté donc un must familial. Donc là, ce qui est intéressant, même pour nous, ça serait de voir ce qu'on n'a pas vu, non pas pour dire, pour dénoncer quoi que ce soit, mais pour voir comment ça a été fabriqué. Moi, il y a une question qui m'intéresse depuis très longtemps dans le cinéma, c'est la représentation du viol. Le nombre de viols qu'il y a dans les films...
Lars von Trier, est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez envie d'aller revoir le film Breaking the Waves? Où c'est une longue scène de viol pendant je ne sais pas combien de minutes. Moi, j'ai toujours trouvé ça insupportable, ce film. Et tout le monde dit que c'est un très grand film, il faut voir ça de point de vue artistique. Ça, c'est un vrai débat qui a été encensé partout. Breaking the Wave, Lars von Trier. Mais moi, j'ai toujours trouvé insupportable de violence.
Et alors, si on continue dans la manière dont cette affaire a modifié le cinéma, le fait de... supprimer Kevin Spacey d'un film, de le remplacer par un autre acteur, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il paraît qu'il est très bon, l'autre acteur, Christophe Plummer. Les articles disent que finalement...
On ne nie pas la qualité de l'autre acteur, non, mais finalement... qu'est-ce que finalement vous en pensez, Geneviève Frey, sur le plan philosophique ?
Est-ce que je peux me déplacer un tout petit peu ? Parce qu'il y a une question depuis 3 mois qui est extrêmement passionnante, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Ce qui vient du langage des lois économiques, notamment d'une directive européenne d'il y a 20 ans maintenant, 97. Au fond, ce n'est pas à la victime de donner les raisons de ce qui lui est arrivé, mais c'est au prédateur ou au dominant de se justifier. Le mot justifié sera d'ailleurs nécessairement commenté. Oui, et cette inversion de la charge de la preuve, qui vient de la question économique, mais qui est passionnante. Parce que on a vu des réactions d'hommes qui ont été attaqués, disant « Oh, mais qu'ils viennent s'excuser, ah, mais qu'elles enlèvent leurs preuves, etc. Leur plainte, sans comprendre que c'était à eux. Et moi, c'est ce que je souhaiterais, c'est que on arrive aussi à un développement des arguments du côté de ceux qui disent « mais je n'ai rien fait » ou « c'est pas grave ce que j'ai fait », je les attends parce que ça me passionnerait. Sur le plan là aussi du récit. Je n'ai pas fait ce qu'on dit que j'ai fait. Et donc, si on veut parler de changement, je pense que ça, c'est un changement important et qui peut rejoindre la discussion qu'on a aussi sur le cinéma. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible de dire de l'autre point de vue ? Parce qu'on a eu la plainte, c'est très bien, et continuons, comme dit Macron, à ce que les femmes portent plainte, etc. Mais ça, c'est une chose partielle. Ce qui est plus intéressant en termes de transformation, enfin, plus intéressant, pardon, pour celles qui portent plainte, parce que c'est important, mais c'est cette histoire de nécessité de faire dire.
Alors, moi, je voudrais un peu élargir de façon plus internationale le débat, parti effectivement de Hollywood, mais Hollywood, c'est la culture mondiale. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que toutes les stars de Hollywood sont connues mondialement, donc ça a tout de suite un effet mondial. Mais ça a touché la planète de façon hallucinante. Quand on parle de tsunami, c'est vraiment un tsunami. J'ai récemment lu ce qui se passe dans les communautés ultra-orthodoxes de Jérusalem, c'est-à-dire ces milieux complètement fermés et qui ne regardent pas le cinéma et la télévision américaine. Les femmes ont commencé à parler parce qu'il y a une culture aussi du viol et du harcèlement dans ces milieux très fermés. Il y a un site web qui recueille justement les témoignages de femmes qui ont été violées par des rabbins, harcelées par un professeur et qui ne pouvaient jamais être entendues. Donc cette espèce de libération de la parole qui est complètement nouvelle et bizarrement planétaire. Ici, on a eu effectivement balance ton porc ou ton cochon, je ne sais plus. Mais c'est partout. Vous avez ça jusqu'en Afrique. Donc, il s'est passé quelque chose qui est un peu irréversible. C'est-à-dire que la parole, une fois lâchée, elle est lâchée.
On aura des surprises, on vient de parler de l'Afrique, on aura des surprises politiques et par rapport aussi aux questions qu'on se pose vis-à-vis de la colonisation, de la post-colonisation, de la décolonisation.
C'est-à-dire
par exemple, puisque à propos d'Afrique, la question qui se pose, j'ai vu ça dans des réseaux sociaux qu'on m'a fait passer, c'est-à-dire que la question de dénoncer l'homme blanc qui est venu effectivement violer ou être prédateur des femmes noires, l'autre question c'est aussi comment les femmes noires, quand elles prennent la parole, sont obligés aussi de parler des hommes noirs. Donc, là, on va enrichir, on va non pas appauvrir ce que croient les gens qui sont dans des strictes logiques politiques, mais on va enrichir énormément le champ. C'était bien de parler aussi d'Israël. On va élargir énormément le champ des lieux où ça se passe.
Mais alors, justement parce que on a vu autour de la question du féminisme et autour de la question religieuse, puisque Annette Lévy-Villard parlait de cette demande chez les juifs ultra-orthodoxes, lorsqu'on voit par exemple la question donc du voile qui est ôté en Iran avec une revendication, je ne sais pas si on peut la qualifier de féministe, mais de l'autre côté aussi des féministes en France qui considèrent que le voile est
un geste politique.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Geneviève
Fraisse? Interrompre une seconde avant de rentrer dans ce débat très complexe du voile. En Israël, il y a une loi sur le harcèlement sexuel et une loi sur le viol extrêmement en avance, justement. Et c'est quand même le pays qui a mis en prison le président de l'État d'Israël pour viol. Il a passé 7 ans en prison. Donc, on ne blague pas avec ces choses-là. Et pourtant, ça continue effectivement dans des milieux fermés. Alors, c'est la question du voile.
Un mot de conclusion, malheureusement, Geneviève,
D'abord, j'emploie le mot foulard et non pas voile, parce que je crois qu'il faut être précis dans le langage. Ensuite, qu'il y ait des conjonctures politiques, c'est ça qui est aussi intéressant. Pourquoi ça serait hors de l'histoire, le voile serait toujours, le voile ou le foulard, le même en Iran et en France? Il n'est pas le même. Donc, c'est à nous aussi d'en prendre la mesure, qui est une mesure, je pense, politique et pas seulement morale ou objectivante pour les femmes. Voilà. Là encore, ça, c'est faire de l'histoire et non pas de l'absence d'histoire, ce qu'on aime à faire pour la question des sexes.
Je rappelle le titre de vos ouvrages, La fabrique du féminisme, qui est republié en poche, et Du consentement chez Geneviève Fraisse. Et puis, Chronique de Los Angeles pour Annette Lévy-Villard et Chronique de la guerre du sexe en Amérique. Je voulais terminer par une citation de Madame de Staël. C'est un auteur que nous aimons, Geneviève Fraisse et moi-même. La nature et la société donnent aux femmes une grande habitude de souffrir et l'on ne saurait nier, ce me semble, que de nos jours, elles ne vaillent en général mieux que les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est la fin, finalement, de ces souffrances féminines, Geneviève Fraisse?
C'est la question de la souffrance, mais alors là, on prend une heure.
Et je ne les ai pas, malheureusement.
Voilà. Mais c'est une question qui m'intéresse énormément.
On sera heureux de vous réinviter pour parler de ce sujet ou d'un autre